Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui d'étudier l'évangile de dimanche prochain. Nous serons au chapitre 8 de l'évangile selon saint Jean, l'épisode de la femme adultère. Un mot de contexte, nous sommes dans les derniers jours de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est l'une des trois grandes fêtes de pèlerinage pour le peuple d'Israël, ce qui signifie que beaucoup de monde était arrivé à Jérusalem. Et lorsque l'on nous dit que tout le peuple venait à lui, que Jésus s'assied et enseigne, cela signifie aussi qu'il peut y avoir une foule considérable de pèlerins. Mais lisons le texte. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, et du doigt, il l'écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Lorsque les scribes et les pharisiens amènent cette femme prise en flagrant délit d'adultère et la mettent au milieu, il est donc possible qu'il y ait une foule considérable qui écoutait Jésus en train d'enseigner. L'enseignement est interrompu, et voilà que, une sorte de cas pratique, est porté à la connaissance de tous. Ce qui signifie que la réponse de Jésus n'est pas seulement à un petit groupe qui l'interrogerait, mais un petit groupe et tous ceux qui sont témoins de ce que ce petit groupe porte comme question. La situation semble simple. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse a ordonné de lapider ces femmes-là. Qu'en dit Jésus ? Le narrateur nous précise cependant immédiatement que les scribes et les pharisiens parlaient ainsi pour mettre Jésus à l'épreuve, pour le mettre en difficulté, afin de pouvoir l'accuser. La femme semble accusée, mais en fait elle n'est qu'un instrument pour une accusation qui vise, elle, Jésus. La femme, la vie de cette femme est instrumentalisée pour pouvoir perdre Jésus. On peut noter la malice de cette posture en se souvenant que le diable est surnommé l'accusateur de nos frères. C'est une expression que l'on trouve dans le prophète Zacharie et qui sera reprise dans l'Apocalypse, l'accusateur de nos frères, celui qui nous accusait jour et nuit devant Dieu. Dans sa réponse, Jésus va devoir donc faire face à trois groupes distincts. Il y a d'une part le groupe des accusateurs, celui des scribes et des pharisiens. Il y a la femme elle-même, et puis il y a tous ceux qui s'étaient rassemblés précédemment pour écouter l'enseignement de Jésus. Voilà trois groupes distincts pour lesquels Jésus doit parler, en visant pour chacun de ces groupes leur salut. Jésus a au cœur le salut de tout homme. Donc à la fois le salut de cette femme prise en flagrant délit d'adultère, mais aussi le salut des scribes et des pharisiens venus avec cette intention mauvaise, mais aussi celui de ces pèlerins, de ces habitants de Jérusalem, qui sont venus l'écouter ce matin-là au temple. Notons que face à cette agitation, Jésus va ménager un retrait, peut-être même un temps de silence. Il devait y avoir une certaine excitation, l'arrestation de la femme n'a pas forcément été simple. Apparemment, son complice a réussi à s'enfuir. Certains ont peut-être déjà pris des pierres pour pouvoir lapider cette femme. Cette agitation, cette excitation semble imposer une réponse rapide, une réponse à l'emporte-pièce. Jésus ne se laisse pas emporter par la pression et il tâche même de la faire retomber en se baissant et en écrivant sur la terre, ce qui peut prendre d'ailleurs un certain temps. Il est intéressant de voir que Jésus, dans le feu de l'action, sait justement résister à la pression, sait ménager le temps dont il peut avoir besoin, peut-être pour réfléchir, hein, n'oublions pas que Jésus est quand même pleinement humain, mais aussi pour donner la possibilité à ceux qui sont dans l'effervescence de voir la température baisser un peu, de retrouver un peu de sang-froid. Cela n'est pas inutile comme exemple pour nous lorsque nous sommes pris dans une situation où la température monte, où l'agitation est importante. Peut-être faut-il savoir se ménager un temps de recul, un temps de retrait, un temps de silence avant de porter notre jugement, avant de porter notre parole à la connaissance de tous. On insiste, on lui demande une réponse. Et Jésus va se redresser et va leur donner sa réponse. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. La réponse de Jésus est très fine, parce que Jésus ne dit pas qu'il n'y avait pas de péché. Jésus ne dit pas que l'adultère n'est pas un péché. Jésus ne dit pas que cette femme n'a pas mérité la mort à cause de l'adultère. Mais il renvoie à une question: qui est digne de porter la sentence de mort? Qui est digne de porter la sentence de mort, à part peut-être celui qui est sans péché? Jésus repousse ainsi l'accusation qu'il serait complice avec le péché. S'il avait dit simplement ne la lapidez pas, il se serait montré peut-être complice du péché et en tout cas dénonciateur de la loi de Moïse donnée par le Seigneur. Remarquons aussi que Jésus, par cette réponse, les renvoie à leur conscience. Il les oblige à s'examiner eux-mêmes. Qui est sans péché? Sont-ils sans péché? Jésus ne donne pas une réponse qui dispenserait les hommes de la réflexion, qui dispenserait les hommes de l'usage de leur conscience. Il les renvoie à l'exercice de leur conscience. C'est une chose très importante et dans le registre de l'accompagnement spirituel et même dans le registre de l'éducation, bien plus que de dire aux gens fais ceci, ne fais pas cela, de les aider à exercer le jugement de leur conscience en les éclairant de la parole de Dieu. Non pas de leur dire donc une consigne à appliquer, mais de leur donner une lumière sur la parole de Dieu pour que leur conscience se mette en œuvre et qu'ils soient capables de juger à la manière du Seigneur. On les conduit à produire un jugement qui soit conforme à la lumière que le Seigneur donne. Après avoir dit cela, Jésus se baisse à nouveau et continue d'écrire sur la terre. À nouveau, il ménage un temps de réflexion, un temps de silence. Et voilà que ceux qui avaient accompagné la femme adultère s'en vont un par un, en commençant par les plus âgés, ceux qui ont vécu le plus longtemps, qui ont peut-être le plus de sagesse ou qui ont le plus conscience qu'avec le temps, le nombre de leurs péchés s'est accumulé. Ils comprennent qu'en lapidant cette femme, en lapidant le pécheur, c'est leur propre lapidation que symboliquement ils demandent, eux qui sont aussi pécheurs. Peut-être d'ailleurs prennent-ils conscience du péché qu'ils commettaient en voulant piéger Jésus, parce que Moïse invitait à lapider les adultères pour que Israël retire d'au milieu de lui le mal. Tu retireras ainsi le mal du milieu de toi, disait le livre du Deutéronome. C'était une purification du peuple qui était recherchée. Or là, ce qui nous est dit, que ce qu'il recherchait, ce n'était pas une purification du peuple, mais de pouvoir accuser Jésus. Sous le couvert d'une défense de la loi, ils avaient un projet meurtrier. Alors Jésus reste seul avec la femme, toujours là, mais on nous précise toujours là au milieu. Alors si Jésus et la femme étaient complètement seuls, on ne voit plus trop quel serait le milieu où elle se trouve. C'est le signe discret que la foule des auditeurs de Jésus, ceux qui étaient venus pour entendre un enseignement, sont toujours là. Ils ont été spectateurs et ils voient Jésus rester seul avec la femme devant eux. Ils se demandent certainement comment cela va finir. Jésus n'a pas nié le péché ni sa gravité. Il n'a pas dit que la femme n'avait pas mérité la mort. Mais il a mis une condition à l'exécution de la sentence, être sans péché, qui rend l'application particulièrement délicate ou rare. La suspension de la condamnation ne va-t-elle pas être un pousse au crime? S'il n'y a pas de condamnation, pourquoi m'en priver? Jésus dialogue alors avec la femme. Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Il ne s'est pas trouvé du coup dans ce groupe d'individus qui se prétendit sans péché. Mais Jésus, lui, est sans péché. Lui serait en droit de porter la condamnation, de jeter la première pierre. Mais il suspend la condamnation. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il ajoute, va et désormais ne pêche plus. C'est extrêmement important. Il ne dit pas va et puis fais comme tu veux désormais, pêche, ne pêche pas, c'est pas grave. Il l'envoie pour qu'elle ne pêche plus. Il lui donne d'aller, il lui donne de continuer à vivre afin qu'elle ne pêche plus. La finalité de la loi donnée à Moïse, tu extirperas le mal du milieu de toi, demeure. Il faut extirper le mal. Et le mal serait extirpé non pas par l'élimination de l'homme pécheur, ici de la femme pécheresse, mais par la conversion de l'attitude, la conversion du comportement, où celui à qui l'on a fait grâce cesse de pécher. Le mal est extirpé non pas par l'annihilation de la personne pécheresse, mais par la conversion de sa vie. La miséricorde induit une injonction à ne plus pécher, induit une résolution à ne plus pécher. Cette résolution, nous la manifestons dans le sacrement de la confession, à travers la prière de l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Cela signifie à la fois qu'on va demander la grâce de Dieu pour que cela soit possible, mais que l'on va aussi réfléchir aux moyens nécessaires et à les mettre en pratique pour ne plus se trouver en situation de péché. Le va désormais ne pêche plus porte en lui cette réflexion de quels moyens dois-je mettre en œuvre pour éviter les occasions de péché. Terminons par une petite parenthèse. On s'interroge parfois sur qu'écrivait donc Jésus sur la terre. L'interprétation demeure mystérieuse parce que nous n'avons pas de réponse définitive. Simplement, cette expression d'il écrivait sur la terre du doigt peut renvoyer justement à l'écriture des tables de la loi dont on nous dit qu'elles furent écrites par le doigt de Dieu. Saint Jérôme, quant à lui, disait que le Christ écrivait sur le sol les péchés de ceux qui s'adressaient à lui pour demander la mort de cette femme. Au terme de ce passage, retenons peut-être particulièrement comment Jésus active la conscience de ceux qui se tiennent en face de lui. Les accusateurs qui réclamaient la mort de cette femme dans le but de piéger Jésus comprennent que s'ils lapident cette femme, symboliquement, c'est leur propre mort qu'ils annoncent aussi, eux qui sont également pécheurs. La femme a vu la mort de près et il ne lui est pas dit qu'elle n'a pas mérité la mort. Elle n'est pas condamnée, et elle n'est pas condamnée non pas parce que ce ne serait pas grave, mais parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est souhaité par Jésus, qu'elle vive sans plus péché désormais. Enfin, ceux qui étaient réunis pour l'enseignement de Jésus ont pu vérifier comment Jésus appelait à la conscience des uns et des autres, prenant le temps de la réflexion et les renvoyant à leur réflexion. Ils ont pu voir aussi cette stratégie de Jésus pour extirper le mal du milieu du peuple, non pas par la condamnation du pécheur, mais bien par la conversion du pécheur. Le péché est toujours combattu, le péché doit être extirpé, mais non pas par l'élimination du pécheur, mais par sa conversion. Je vous souhaite de bons échanges.